Chers auditeurs, bonjour. Ce samedi, j'ai le plaisir de recevoir un syndicaliste, M. Laurent Ziegelmeier. L'émission va traiter de la santé mondiale qui est entre raquettes et bien public. M. Ziegelmeier, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Rapidement, je suis salarié dans un grand groupe pharmaceutique. Qui est Sanofi Aventis, un groupe qui est issu de la fusion des sociétés Aventis et Sanofi. J'y suis syndicaliste CFDT, et je m'intéresse depuis plus de 10 ans à la question complexe de l'accès aux médicaments.
Alors, M. Ziegelmeier, je vous invite aujourd'hui à parler de la santé mondiale parce que vous avez collaboré à un ouvrage collectif de l'association Bien Public à l'échelle mondiale. Le titre de l'ouvrage, c'est « La santé mondiale entre raquettes et bien public » aux éditions Charles-Léopold Meyer. Monsieur Ziegelmeier, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la santé mondiale?
Tout d'abord, un petit mot sur l'ouvrage. Je voudrais en parler rapidement. Il a un double intérêt. D'abord, c'est la collaboration d'auteurs d'horizons très divers. On trouve à la fois des militants associatifs venant d'ACT UP, des militants syndicalistes comme moi, un responsable de l'OMS, des chercheurs. Et on l'a conçu comme un lieu de débat. C'est-à-dire que ce n'est pas le grand consensus où on est tous d'accord. C'est un vrai lieu de débat sur cette question complexe qu'est l'accès aux médicaments. Et puis le deuxième intérêt de ce livre, c'est que non seulement il fait un constat de la situation, mais chose déjà faite ailleurs, mais en même temps il fait des propositions, il y a des pistes alternatives, et c'est aussi ça son grand intérêt. Alors sur la situation, j'ai pas envie de m'éterniser trop longtemps, tellement les chiffres sont horribles. En même temps, il est bien d'en donner quelques-uns. Il y a 80% des médicaments sur cette planète qui sont consommés par 20% de la population.
Alors la population, Europe du Nord, États-Unis et Japon.
Exactement. Et il y a à peu près 1,8 milliard d'habitants sur cette planète qui n'y ont pas accès du tout. Et dans ces 1,8 milliard, la quasi-totalité sont dans les pays en voie de développement. Trois chiffres qui placent bien le niveau de l'horreur. Le paludisme, la malaria, tue un enfant sur cette planète toutes les 30 secondes. En 20 ans d'épidémie de sida, 20 millions de morts. Et puis les maladies infectieuses, toutes confondues, font en moyenne 17 millions de morts par an. Donc voilà à peu près l'état de la situation, sur la planète d'un point de vue chiffre. Après, si on se penche un petit peu plus dans le détail, on peut faire un parallèle intéressant entre population au nord et population au sud.
Alors, le parallèle, vous allez le faire sous quel angle, Monsieur Ziegelmeier?
C'est de montrer l'intérêt de travailler les dossiers en profondeur et de voir que tout n'est pas binaire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Que la logique qui est appliquée de manière cruelle aux pays du Sud a ses corollaires dans les pays du Nord.
C'est-à-dire?
D'un côté au Sud, on a des pandémies qui ont des impacts socio-économiques terribles. De nombreuses entreprises où les salariés ne viennent plus travailler parce qu'ils sont malades. Donc ça a des impacts énormes sur l'économie de ces pays. On a des médicaments trop chers, on a des traitements trop anciens et des résistances ont été développées. Et puis on a une recherche sur les maladies, je dirais spécifiques, des pays en voie de développement qui est quasi inexistante. Encore
oui.
Un chiffre.
Oui, d'accord.
Sur la période 1975-1999, il y a à peu près 1400 nouvelles molécules, nouveaux médicaments qui sont sortis sur le marché. Sur ces 1400 médicaments, il y en a 1% qui étaient destinés aux pays du Sud. Et puis, ce qui est toujours intéressant sur le Sud, c'est de voir que le médicament est un élément du problème de santé, mais on se trouve dans un débat que je qualifierais où le terme principal à utiliser est l'interdépendance. Parce qu'à la fois, on a le problème de l'accès aux médicaments, mais en même temps, on a des États dont la plupart n'ont pas la santé comme préoccupation.
C'est exact.
Et puis, des véritables problèmes d'absence d'infrastructure, d'absence d'éducation à la santé. Et donc, le médicament, il est dans cette affaire-là un des éléments, mais même si on amenait des palettes entières de médicaments dans un certain nombre de pays, ça ne serait pas suffisant pour régler le problème. De l'autre côté, pour faire le parallèle, au Nord, et pour montrer qu'il y a une vraie solidarité à avoir entre population du Nord et population du Sud sur la question du médicament. On a une population au Nord qui, pour certaines classes de médicaments, surconsomme, avec de nombreuses interrogations. On l'a vu, on en parlera tout à l'heure avec l'affaire du Vioxx. Et puis il y a des vraies questions qui se posent. L'accès aux plus pauvres dans nos pays, Quelle politique de santé publique quand des États n'ont aucune maîtrise sur l'industrie pharmaceutique? Et puis, un débat très actuel, le financement de la protection sociale, de la sécurité sociale et le coût du médicament dans ce financement.
Alors, M. Ziegelmeier, est-ce qu'on peut revenir vraiment sur les blocages dans les pays du Sud à l'accès aux médicaments ou à la santé publique?
Je pense qu'il y a un des acteurs importants dans ces blocages, et pas le seul encore une fois, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc on peut peut-être avoir un petit tableau sur ce qu'est cette industrie.
S'il vous plaît, oui, merci.
Il faut bien voir que c'est l'industrie la plus profitable de la planète, de très loin. Si je prends l'exemple d'une entreprise que je connais bien, Aventis, en 2002, a fait un bénéfice, pas un chiffre d'affaires, un bénéfice de 2 milliards de dollars. C'était le double de celui de 2000. Et en parallèle, c'est pour ça que là aussi, solidarité Nord-Sud, elle est existante, en parallèle d'importantes suppressions d'emplois. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est une industrie qui, plus que toutes les autres, augmente ses bénéfices de manière très importante tous les ans. Le deuxième aspect, c'est son rapport à la recherche. Parce que pour moi, l'accès aux médicaments, c'est à la fois l'accès aux médicaments pour les traitements existants, mais aussi l'accès aux futurs traitements.
Oui, parce qu'au fil du temps, on peut développer des résistances à certains médicaments et il faut faire de la recherche pour améliorer les traitements.
Complètement. Et si je prends encore une fois l'exemple d'Aventis, et en particulier celui du centre de recherche de Vitry où je travaille depuis bientôt 13 ans, on a vu au fur et à mesure des années une focalisation sur les maladies rapportant beaucoup et vite.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de maladie qui rapporte beaucoup et très vite?
Une maladie qui rapporte beaucoup et très vite, il y a les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, donc qui sont des vrais problèmes de santé publique, mais qui touchent aujourd'hui principalement des populations solvables et pour lesquelles il y a des systèmes de protection sociale très importants.
D'accord. Par contre,
qui de fait finance ces médicaments
et qui rapporte beaucoup de bénéfices.
Exactement.
Par contre, tout ce qui est maladie infectieuse ou bien traitement contre le paludisme qui tue, bon, du côté d'Aventis ou des autres industries pharmaceutiques, ça donne quoi?
Si je prends la période de 89-2004, rien que pour le centre de recherche de Vitry, en 89, il y avait 10 axes différents de recherche à Vitry. Donc un axe, c'est un domaine thérapeutique particulier, les anticancers, les antipaludismes, etc. Donc en 89, il y avait 10 axes, dont le paludisme, la malaria et le sida. En 2004, il n'y en avait plus qu'un, le cancer.
Bien. Donc
je pense que c'est assez
édifiant.
Assez clair. Ensuite, ce qui est, je crois, important dans cette affaire, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le médicament, dans les pays du Nord, il y a un financement de la vente, des achats quasi assurés derrière. Mais en même temps, ce médicament, qui n'est pas un objet comme les autres, qui n'est pas un produit comme les autres, parce qu'il rentre dans la santé publique, il est emprisonné aujourd'hui dans le seul marché. Si je prends encore un exemple issu de Vitry, il y a eu une époque la volonté à un certain stade de développement du produit, de noter les projets. Et il se trouve que syndicalement, on s'est procuré les tables de notation. Je donnerai que deux aspects de cette table de notation pour ne pas en révéler plus. Un médicament qui correspondait à une maladie sans traitement aujourd'hui obtenait 3 points dans cette notation. Un médicament qui correspondait à un marché d'un milliard de dollars recevait 10 points dans la même notation.
Alors, que les auditeurs comprennent bien, le paludisme, 3 points, l'obésité ou le cancer, 10 points, on est d'accord?
En gros, un traitement anti-malaria, 3 points, un traitement type Viagra, 10 points, oui.
Bon, donc ça veut dire qu'on peut considérer que depuis cette époque, les molécules pour traiter l'antipaludisme restent dans les tiroirs, ça ne rapportera strictement rien et on ne débloquera pas du budget pour travailler là-dessus.
Complètement, ça sera la discussion qu'on aura tout à l'heure sur les propositions, sur le problème des, ce que j'appelle moi, les brevets dormants, c'est-à-dire ces molécules qui sont dans les tiroirs et qu'on ne développe pas aujourd'hui.
Alors, on rappelle que le paludisme, c'est un enfant toutes les 6 secondes.
30 secondes.
30 secondes, pardon.
Un enfant
Merci.
Toutes les 30 secondes, oui. Pour finir sur le tableau de l'industrie pharmaceutique, on peut se poser la question, et en étant un peu provoquant, y trouver une réponse qui permet d'aller plus loin dans le débat. La question, c'est est-ce que l'industrie pharmaceutique, elle est la seule responsable dans cette affaire? Mais moi, je dis non, clairement. De son point de vue, elle fait du business comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui. la grosse, l'énorme responsabilité derrière, c'est la responsabilité du politique.
Alors, donc, si j'ai bien compris, les pouvoirs publics qui chaque année communiquent sur le déficit de la sécurité sociale, qui nous incitent depuis quelque temps à demander à nos pharmaciens de faire un remplacement des produits contre leurs génériques, soi-disant pour générer des diminutions des dépenses de la sécurité sociale, qui vont nous inciter à nous inscrire sur les fichiers avec notre médecin traitant, en fait, ils ont déjà démissionné depuis très longtemps en ce qui concerne la politique de santé.
Bah, je pense que comme beaucoup, si on prend la situation de la France, et après on reviendra sur leur responsabilité dans le programme de l'accès, mais si on prend rien que la situation de la France, globalement, en étant très gentil, c'est une politique du laisser-faire. C'est-à-dire que les vraies questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment sont fixés les prix des médicaments, comment sont évalués les traitements, etc. etc. Il est vraiment temps de mettre du politique dans le médicament, ce qui n'a franchement jamais été vraiment le cas dans ce pays.
Alors, est-ce que ça vient aussi peut-être du fait que la société civile ne connaît pas les dessous de cette industrie pharmaceutique, ne connaît pas les dessous du rapport des forces, n'étant pas informée, elle ne monte pas au créneau suffisamment, et elle n'oblige pas les pouvoirs publics à jouer leur rôle aussi.
Je pense que pendant très longtemps, que ce soit du côté du politique, du syndicat ou de la société civile de manière plus large, on va dire qu'il y a eu un désintérêt assez global sur la question du médicament. On allait chez son médecin, on avait une ordonnance, on allait chez son pharmacien, on prenait le médicament et on était remboursé. Et on se posait pas trop de questions. Sauf que des scandales comme le Vioxx devraient poser beaucoup de questions.
Il y a aussi le scandale du sang contaminé.
Exactement. Il y a un bon exemple, hein. On en parlera tout à l'heure du procès de Pretoria.
Exact.
Mais c'est certainement une des plus belles victoires, du moins en termes de résultats du procès, pour le mouvement altermondialiste, avec l'absence quasi totale du mouvement altermondialiste dans cette affaire.
D'accord. Alors, en ce qui concerne la pression sur les pouvoirs publics, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du rapport de force que pourrait soulever la société civile? Il y a, bon, le fait de s'informer. Donc, votre ouvrage est disponible, il coûte environ 15 euros. Donc, il dresse un panorama de tout ce qui ne va pas au niveau du racket. Et il donne des pistes pour tout ce qui est accès à la santé comme bien public et bien public gratuit. On est bien d'accord?
On est bien d'accord.
Alors, monsieur Ziegelmeier, revenons sur la société civile. En Europe, on s'imagine, quand on est dans les pays du Sud, que l'accès aux médicaments, l'accès à la santé, c'est parfait. Pas du tout. Nous avons dans nos pays des catégories de population qui sont exclues des soins médicaux. Nous avions avant ce qu'on appelle la couverture médicale généralisée, l'AME, pour les sans-papiers, pour les gens qui n'avaient pas de revenus, qui a été supprimée. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur tout ceci, s'il vous plaît?
Je pense que la société civile, son problème aujourd'hui par rapport aux médicaments, c'est qu'il faut prendre conscience que le payeur, donc nous, tout à chacun, hein, oui, par le biais du budget de la sécurité sociale, le payeur se doit d'avoir un droit de regard sur ce qu'il achète. Quand vous allez acheter une baguette ou vous allez acheter une voiture, vous faites un choix. Sur le médicament, encore une fois, qui n'est pas un produit comme les autres, hein, le payeur, il paye et il n'utilise pas de droit de regard. Si on peut prendre un parallèle ou un comparatif plutôt avec ce qui se fait outre-Atlantique,
oui,
aussi paradoxal soit-il, le pays où l'industrie pharmaceutique a une liberté totale des prix des médicaments, que sont les États-Unis, on trouve aux États-Unis des associations dans la société civile massives, fortes, puissantes, qui font tout un travail sur la question du prix des médicaments, sur la question des effets secondaires. Enfin, alors qu'en France, le reste de l'Europe, je ne connais pas bien, mais en France, on a... c'est un petit peu comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, hein, c'est un petit peu chacun dans son coin. Moi, si je devais faire un appel un peu en l'air comme ça, ce serait de dire il est vraiment temps que les malades se mettent un peu plus ensemble avec un certain nombre d'autres morceaux de la société civile pour enfin utiliser ce droit de regard sur le médicament.
Alors, cette semaine, on a appris quand même qu'il y a des associations qui se sont émues d'apprendre que, outre le médicament, il y a aussi la santé ou l'accès à la santé. Il y avait un syndicat de pharmaciens, enfin de dentistes qui avait décidé qu'on devait mettre sur liste d'attente les patients sous CMU. Ça a soulevé un tollé d'indignation et ils ont reculé.
Complètement.
Bien, mais il n'empêche que si vous avez une CMU, vous n'êtes pas sûr que le dentiste du coin de votre quartier vous prendra tout de suite. À moins d'avoir une association qui vérifie que l'accès à la CMU est bien suivi et que il n'y a pas de discrimination parce qu'il y a une carte de CMU, je veux dire, on est tout seul dans son coin. Vous avez des mères de famille qui sont chefs de famille au chômage, qui ont des enfants, et ça ne suit pas au niveau des soins dentaires ou tout simplement au niveau du médecin.
Moi, je crois que ce dont on a besoin en France, c'est d'un mouvement associatif fort qui travaille sur ces questions de l'accès à la santé, de non-discrimination vis-à-vis de la santé, d'accès aux médicaments. Honnêtement, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans ce pays. Hein. On n'a pas ce type de structure comme, encore une fois, il peut exister de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'association BPEM a justement essayé de réunir tous les secteurs, toutes sortes de personnalités autour de cet ouvrage pour poser un état des lieux et inciter la société civile à se mobiliser?
C'est un début parce que quand on regarde bien ce qui se passait depuis bien avant, mais surtout depuis le procès de Pretoria, je trouve qu'un des intérêts de ce livre aussi, c'est d'avoir mis autour de la même table des gens qui, sur le même sujet, militaient dans des coins différents depuis, à mon avis, trop longtemps. Et je voudrais revenir sur la responsabilité du politique dans l'accès aux médicaments.
Oui, s'il vous plaît.
D'un mot, on a eu il y a quelques semaines, quelques mois, le ministre français de la Santé, Philippe Douste-Blazy, allait expliquer au Brésil, devant les Brésiliens, que la France allait tout faire sur l'accès à la santé. Enfin, le même ministre a travaillé pendant la même période sur un projet de loi d'accès aux médicaments pour les pays en voie de développement, d'accès aux génériques, beaucoup plus restrictif que le même projet de loi européen. Donc il y a discours et puis il y a incohérence. Et puis ça porte quand même à sourire d'aller expliquer devant la classe politique d'un pays qui a fait beaucoup de choses pour l'accès aux médicaments que sont les politiques brésiliens, que la France va s'engager pour aider le Brésil. Déjà, heureusement, le Brésil n'a pas attendu.
Oui, déjà, si la France s'engageait sur les sommes que notre président Chirac promet pour l'accès aux plus pauvres au traitement, déjà, ce serait bien. Et ça n'obligerait pas les gens de ACT UP à aller mettre du faux sang sur les murs de l'Élysée. Ils ont été traînés en justice. Et donc, aux dernières nouvelles, ils auront une... Le procureur a demandé une amende à hauteur de 45 000 euros, si mes informations sont exactes.
Oui, j'ai pas le chiffre.
C'est 45 000 euros. Et le jugement aura lieu le 17 février.
Je pense que le président de la République, c'est le bon exemple. Hein. C'est le bon exemple. Il vient de nous faire un discours à Davos où il explique qu'il faut une taxe mondiale contre le sida. Mais son ambassadrice au Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose, a, lors de la conférence de presse de l'ONU sida à la fin de l'année dernière, expliquer que la France n'arriverait pas à tenir ses engagements.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple sur le sida, justement, et après on nous passerons aux expériences qui ont marché. 5,8 millions de personnes ont besoin d'accès aux trithérapies. Il n'y a que 700 000 personnes qui ont réellement accès par les fonds de solidarité pour les pays les plus pauvres. C'est les chiffres de 2004. 310 000 en Afrique, qui est un des continents les plus touchés, donc à peu près 4% de la population. Et on a évalué le coût pour traiter tous les porteurs de virus, à peu près 40 millions de personnes, à 3 à 4 milliards en 2005. Alors, beaucoup disent que l'accès, le non-accès aux médicaments et aux trithérapies vient des laboratoires qui font un barrage sur ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut en arriver ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le problème ? Et ce pourquoi le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud se sont engagés dans une politique massive contournant ce brevet intellectuel pour sauver, c'est une course contre la montre, il faut sauver des millions de personnes. Et si l'exemple d'Afrique du Sud marche, on pourra l'exporter pour le Maghreb et pour d'autres pays d'Afrique noire.
Complètement. Il y a, je pense, dans la situation, deux principaux responsables. L'industrie pharmaceutique, j'en ai parlé, par une vision ultra-mercantile des brevets, en ayant l'impression que aujourd'hui, le continent africain, de toute façon, n'est pas un marché. C'est 1% du marché mondial du médicament.
Alors, nord comme sud du continent, Maghreb ou Afrique noire, c'est pour 1%.
Enfin, c'est ce que je disais en début d'émission, les choses ne sont pas aussi simples et pas aussi binaires.
D'accord.
Sur le marché mondial du médicament, l'Afrique, dans sa globalité, représente 1%. Après, au sein du continent africain, il y a des grosses disparités.
D'accord.
Il y a 4-5 pays... en particulier l'Afrique du Nord et le Nigeria, qui sont des marchés un peu plus importants.
Et d'autres qui sont complètement désertés.
D'autres qui sont quasi inexistants. Et puis, au sein même des pays, on a aussi encore des disparités fortes. Si je prends l'exemple du Nigeria, par exemple, qui est un marché important à l'échelle de l'Afrique, c'est une certaine catégorie de la population qui a accès aux médicaments.
Les plus riches.
Exactement. Donc on a trois niveaux. On a l'Afrique, tout petit marché sur la planète. Au sein de l'Afrique, quelques pays un peu plus importants que d'autres. Et au sein de ces mêmes pays, des populations massivement qui n'ont pas accès, qui sont les populations les plus pauvres.
Alors la deuxième raison pour laquelle il n'y a pas d'accès au niveau du sida en tout cas, et des maladies infectieuses, ou aux médicaments pour 40 milliards d'entrées.
Pour moi, il y a deux facteurs principaux. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, je l'ai dit, l'industrie pharmaceutique avec des médicaments trop chers pour ces pays. C'est pour ça qu'il y a un appel signé par nombreux universitaires, chercheurs, syndicalistes, mais aussi, M. Doustoblady, un appel qui s'appelle Free by Five, Free FR2E.
C'est-à-dire libre, gratuit.
Exactement, qui appelle à lancer le débat sur la question de la gratuité pour les pays les plus pauvres sur la planète.
Pour 2005, c'est pour ça que ça s'appelle Free by Five, parce qu'il y avait 4 by 4 et Free by 4, si mes souvenirs sont exacts.
Et puis en parallèle, il y a un programme de l'OMS, qui lui s'appelle Free 3 voilà. by 5, qui lui propose d'arriver à traiter d'ici fin 2005, donc à la fin de cette année, 3 millions de malades du sida dans les pays les plus pauvres sur
les 700 000 qui existaient à la fin de l'année dernière.
Aujourd'hui, le bilan de ce programme, c'est 700 000 fin 2004. Je vois honnêtement pas bien comment on va arriver aux 3 millions, essentiellement pour deux raisons.
Alors, le traitement, si mes souvenirs sont exacts, c'est 15 000 dollars pour, quand on achète le brevet intellectuel. Quand on achète les copies, le tarif des copies, pour les pays qui ont cassé le brevet, comme le Brésil et l'Inde, est de 300 dollars.
C'est à peu près l'échelle, oui. On va de 15 000 à 300.
À l'année, hein,
c'est bien. À l'année, oui, tout à fait. L'autre aspect, au-delà du prix du médicament, ce que je disais tout à l'heure dans l'émission, hein, on pourrait livrer des palettes entières d'antirétroviraux en Afrique, que ce serait une étape nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire, indispensable, mais pas suffisante. Pas suffisante parce qu'après, il y a un besoin d'un engagement des pays riches, dans le cadre du Fonds mondial. Aujourd'hui, ce Fonds mondial, il a des vrais problèmes de financement. Ce Fonds mondial, il est contourné par le plan Bush. Mais c'est là qu'on voit le manque de volonté politique des autres.
Et de l'Europe. Ils ne payent pas les sommes promises, comme
exactement.
La France.
Ils ne payent pas et ils n'ont pas de discours alternatif au plan PEPFAR, qui est le plan du président américain. Et donc, qui pourrait lui vouloir aujourd'hui d'arriver à faire passer son plan qui est très axé sur la prévention, mais pas au sens où on l'entend en France, mais plus sur une prévention très puritaine. Mais en même temps, ils donnent 3 milliards pour les traitements. C'est-à-dire que le dernier communiqué de presse de l'OMS sur leur plan Free by Five, 3 millions jusqu'à fin 2005, le gouvernement américain est en tant que tel associé à ce communiqué de presse, parce qu'eux, ils mettent la main à la poche. Même si c'est avec une politique qui est pas acceptable d'un point de vue militant pour l'accès, les autres en face ne disent rien, tout simplement parce qu'ils ont plus que largement renoncé. Après, il faut regarder les exemples qui concrètement marchent aujourd'hui.
Alors, le Brésil.
Aujourd'hui, on a trois situations qui sont intéressantes. Alors, je ferai peut-être le Brésil en troisième parce que d'accord. C'est le plus optimiste, donc autant finir sur une bonne note. Oui. Ce qui a été le plus médiatisé, c'est Pretoria. Pour cette Pretoria en Afrique
alors,
du Sud.
Alors, capitale d'Afrique du Sud, économique.
Pour rappeler, 49 entreprises pharmaceutiques contre le gouvernement sud-africain qui voulait donner l'accès au générique pour sa population.
Alors, il faut savoir que dans les contrats de l'OMS, il y a ce qu'on appelle l'urgence sanitaire. Et donc, c'est justement un des participants de cet ouvrage, M. German Velasquez, qui avait trouvé la faille. Il y a dans les contrats de l'OMS une clause qui s'appelle l'urgence sanitaire. Donc, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, en cas d'épidémie ou de graves problèmes de santé publique, on autorisait chaque pays à produire des copies de molécules existantes et appartenant à des entreprises privées comme les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'il y avait une urgence sanitaire. Donc, comme les pays, comme les industries pharmaceutiques refusaient de baisser le prix des produits, le Brésil, dès que, avec la présidence actuelle du président Lula, a décidé de copier et de fournir à tous les Brésiliens un traitement gratuit. Et l'Afrique du Sud a décidé d'emprunter la même voie.
Bah, l'Afrique du Sud a décidé d'emprunter la même voie, qui était la voie y compris du président brésilien précédent, hein, Cardoso,
oui.
Qui tout en étant un très grand ultra-libéral sur plein de questions économiques, sur les questions de santé, avait une politique bien plus à gauche que la plupart de nos gouvernements européens. Pretoria, c'est moi, j'ai un espèce de goût amer dans la bouche au sujet de Pretoria, à la fois... Et y compris certains dirigeants de l'industrie pharmaceutique le disent en privé aujourd'hui, c'était une énorme erreur que d'aller porter plainte contre le gouvernement sud-africain, pour deux raisons, je les comprends très bien. La première, c'est que ça leur a donné une image de marque
détestable.
Assez détestable. Et la deuxième, c'est que ça a vraiment mis sur la place publique de manière beaucoup plus large la problématique de l'accès aux médicaments, qui était un truc de militants dans leur petit coin.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a découvert que c'était des marchands de mort. C'est-à-dire qu'ils préfèrent déjà laisser les molécules dormir quand ils ne sont pas rentables, comme dans le cas de la bilière rose, le paludisme et tout le reste. Et surtout, ils refusaient de baisser les prix alors que le continent est massivement touché, au nord comme au sud. Ouais. Donc la société civile s'est rendue compte que ce sont des marchands de mort. Ce sont des marchands, c'est une industrie marchande, on le veut bien. Mais en cas d'urgence sanitaire, ils devaient baisser au moins les prix. Les gens étaient prêts, la société civile était prête à les payer. Il y a des ONG ici, qui, comme Femmes Solidaires, comme d'autres, qui achètent les médicaments et qui les envoient ensuite dans les pays du Sud. On était prêts à payer le prix, mais pas refuser, payer un prix exorbitant et laisser les gens mourir, parce que c'est le cas pour le continent africain, au nord comme au sud.
Complètement, complètement. Ce qui me laisse aussi un goût amer sur Pretoria, c'est l'après. C'est-à-dire que... Le procès était une victoire pour le gouvernement sud-africain.
Grâce à la mobilisation de toutes les ONG et des avocats qu'elles ont engagés pour aller à Pretoria. Donc ça a été, d'ailleurs il y a des sites internet, dont BPEM, le site internet de BPEM, c'est bpem.org, qui revient sur ce procès. Donc juridiquement...
Juridiquement c'est une victoire, politiquement pour moi c'est une défaite Pretoria. Pourquoi c'est une défaite? Parce que le gouvernement de Thabo Mbeki en Afrique du Sud, honnêtement, n'aide pas les militants au sud comme au nord pour l'accès aux médicaments, pour une raison simple. Il a gagné au tribunal contre l'industrie pharmaceutique, mais il a perdu au tribunal contre les activistes anti-sida en Afrique du Sud. Pour une simple raison, c'est que le gouvernement de Thabo Mbeki aujourd'hui est persuadé que les antirétroviraux, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait la grandeur d'un Nelson Mandela pour revenir à la charge, pour expliquer que c'est la seule alternative pour traiter les populations aujourd'hui. Ça ne soigne pas contre le sida, mais c'est le seul moyen de ralentir la maladie.
Alors, je voudrais dire un mot sur M. Nelson Mandela, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il a enterré son fils il y a 15 jours, et il a eu un discours qui est le suivant. Il y a des moyens de protection, qui sont le préservatif. Bon, c'est beaucoup plus facile que la chasteté, ce que prône l'administration Bush. Mais, comme il l'a dit... On n'est pas à l'abri de ce virus, même quand on est le fils de M. Mandela. Il a admis qu'il y avait d'autres personnes. Enfin, il a présenté d'autres cas dans sa famille. Il a enterré son dernier fils. Il n'avait que 4 fils. Ce dernier-là est mort du sida. Il l'a admis. Et il a incité le continent à se protéger. Mais quelque part, quand on voit l'Afrique du Sud, qui a à peu près le même état de l'industrie que le Brésil, qui a des pharmaciens, qui a des chercheurs, qui a des industries qui pourraient copier ces médicaments et qui ne le fait pas. Non, mais... Alors que le Brésil l'a fait.
En Afrique du Sud, on a typiquement un problème, ce que je disais tout à l'heure, on a typiquement un problème de volonté politique. Il ne suffit pas de gagner un procès contre l'industrie pharma pour soigner sa population.
Il faut que la politique suive.
Exactement, exactement. Et force est de constater que le gouvernement de Thabo Mbeki ne suit pas. Sur un traitement tout simple, qui est dans le domaine public aujourd'hui, qui est la névirapine pour la transmission du sida entre la mère et l'enfant quand la femme est enceinte, il a fallu des batailles et il a fallu un procès perdu par le gouvernement de M. Mbeki pour que ce médicament soit distribué à la population.
Bien. Alors, nous avons le même problème dans certains pays du Maghreb. Il y a des pays qui auraient l'industrie pour fabriquer les molécules, comme celle dont vous voulez me parler, mais on risque de se retrouver dans la même situation que l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont fabriquer ce produit, les industries, bien sûr, vont les attaquer, il ne faut pas rêver. Et peut-être que le gouvernement n'acceptera pas de laisser produire ses copies bon marché.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un autre bon exemple de non-volonté politique, hein, parce que tous ces problèmes de brevets sont quand même dans un cadre réglementaire international qui est fixé par l'OMC. Et à l'OMC, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui fixe les règles. À l'OMC, c'est les gouvernements. Et il y a un bon exemple qui est ce qui se passe en Inde aujourd'hui. On a eu une industrie privée du générique qui a contribué à faire baisser les prix de manière considérable sur la planète. En même temps, aujourd'hui, le gouvernement indien doit se conformer aux règles de l'OMC. et on ne voit pas beaucoup de volonté politique du gouvernement indien pour réfléchir à cette question. Et ça m'amène à l'exemple brésilien, qui est certainement le plus intéressant sur la planète aujourd'hui. Et c'est certainement pour ça que c'est celui dont on parle le moins dans les médias au Nord.
Alors, M. Gilles-Galbeillard, on va faire une coupure publicité et nous allons revenir sur l'exemple qui marche le mieux. Merci.
D'accord.
À tes meilleurs voeux de bonheur.
Chers auditeurs, bonjour. Ou rebonjour pour ceux qui nous écoutaient depuis tout à l'heure. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui M. Laurent Zigelmeyer de l'association Bien Public à l'échelle mondiale. Donc, nous traitons de la santé mondiale entre raquettes et bien public. Et nous allons donc, M. Zigelmeyer, venir à l'exemple brésilien, qui est un succès en matière d'accès aux trithérapies.
Enfin, j'ai contribué à l'ouvrage Bien Public à l'échelle mondiale. Je ne suis pas membre de cette association.
Excusez-moi.
Non, c'est pas grave. L'exemple brésilien, il est intéressant. Si on peut prendre un premier aspect, c'est une déclaration récente du gouvernement brésilien qui explique qu'ils outrepasseront, alors que comme d'autres, ils doivent se conformer à la loi des brevets en 2005, ils outrepasseront le droit des brevets parce que pour eux, la priorité, c'est la santé de leur population.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont copié la première génération des trithérapies. Il va y avoir des résistances, notamment sur les enfants, bientôt. Et on leur refuse, depuis 2005, de copier la nouvelle génération des trithérapies. Mais ils vont passer outre, justement. Donc ils vont créer une nouvelle jurisprudence.
Donc en gros, tous les traitements qui sont entre 1995 et 2005 ne devraient plus pouvoir être copiés par les Brésiliens. L'autre problème, c'est que des pays comme la Chine ou l'Inde étant obligés de se conformer, ou se laissant obligés de se conformer au droit international, le Brésil importe beaucoup de matières premières et de principes actifs pour faire ses génériques, ce qui va lui poser un vrai problème quand même
d'approvisionnement,
ça c'est clair. Là où le modèle brésilien est intéressant, et c'est pas moi qui utilise le terme, c'est l'ONU-SIDA, qui dans ses rapports récents dit que s'il y a un pays qui a une politique claire, efficace, économiquement équilibrée pour soigner les malades du sida, c'est bien le Brésil.
Alors, parce qu'il n'y a pas que l'accès aux médicaments, il y a aussi une politique sanitaire de prévention, de détection du virus. C'est tout un accompagnement, en fait.
Cette politique est part de ce que j'essaie de faire passer aujourd'hui, qui est cette notion de volonté politique. C'est-à-dire le gouvernement précédent au Brésil, donc qui était le gouvernement de M. Cardoso, qui n'était quand même pas un gouvernement forcément très progressiste. Le gouvernement de M. Lula continue dans cette voie, a décidé qu'il y avait un véritable problème de santé publique. En même temps, il y a eu une vraie mobilisation de la société civile et des associations de malades contre le sida. La politique du Brésil, elle est assez simple. Il y a tout un travail de prévention, tout un travail d'éducation, tout un travail d'accès aux médicaments par des médicaments gratuits. Aujourd'hui, on a 125 000 malades du sida au Brésil qui sont traités par des médicaments gratuits fournis par le gouvernement. Et ça, c'est possible parce que l'industrie pharmaceutique brésilienne, publique
et privée,
mais le public est important dans cette affaire, a expliqué au reste de l'industrie pharmaceutique mondiale que deux choses l'une, soit ils baissaient leur prix, soit parce qu'ils en sont capables, ils faisaient les médicaments à leur place. Donc ça a conduit à, en gros, deux alternatives, soit ils produisaient eux-mêmes, soit ils obtenaient des baisses de prix conséquentes. Et l'intérêt de cette politique, elle montre bien l'intérêt de la gratuité dans le cadre des traitements pour ces pays, c'est que ça a généré des économies énormes.
Ah oui, de 15 000 à 300 dollars, je veux bien vous croire.
Et puis des économies énormes en termes de budget de santé publique pour le Brésil, notamment sur les frais d'hospitalisation. On a beaucoup moins de malades hospitalisés aujourd'hui au Brésil et on a beaucoup plus de malades traités directement chez eux.
Et en plus, on a moins de malades parce qu'il y a aussi une politique en amont de prévention et de sensibilisation des populations, surtout les plus précaires.
Complètement.
Parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, il y a aussi un problème de faim.
Oui, tout à fait.
Dans certaines parties de province ou carrément de maintien dans l'esclavage d'une population dans les grandes exploitations agraires.
Et deux aspects complémentaires de la politique brésilienne qui moi me semble-t-il sont intéressants, c'est qu'on trouve au Brésil un laboratoire public, donc qui a, j'y viendrai au moment des propositions, mais qui a un vrai impact dans cette politique de santé publique. Et puis l'État brésilien a décidé des collaborations sud-sud, notamment dans le cadre de la communauté des pays lusophones, des pays de langue portugaise, pour financer en Afrique une usine de fabrication de préservatifs et une usine de fabrication d'antirétroviraux. Donc c'est vraiment, Je ne suis pas un adepte des modèles, mais honnêtement, c'est vraiment une politique modèle en termes d'accès aux médicaments.
Donc, ils exportent leur savoir-faire, ils exportent leurs connaissances auprès de ceux qui en ont besoin, l'Afrique. Et c'est là où on est tombé sur le problème de l'Afrique du Sud, où la volonté politique bloque justement une transmission de savoir-faire et d'une politique de prévention qui a fonctionné au Brésil. C'est ça le problème. Et j'ai peur que le problème d'Afrique du Sud ne se répète dans d'autres pays qui auraient aussi les moyens techniques de fabriquer ces médicaments. Il y a des pays du Maghreb, il y a des pays comme le Nigeria aussi, qui ont les outils. On est bien d'accord.
Complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je ferai deux citations sur, pour bien voir quel est l'impact du politique. Hein. Je suis allé récemment à la fac de pharmacie de Paris écouter la présentation d'une thèse sur l'accès aux médicaments pour un doctorat pharmacie, ce qui est assez rare pour le noter. Et la thèse était brillante. Elle était brillante parce qu'elle montrait bien l'état de la gravité de la situation. Et puis en même temps, cette notion d'interdépendance. Je vais prendre deux personnes qui ont beaucoup fait pour l'accès aux médicaments dans deux pays. C'est Eloane Pinheiro dos Santos, qui a écrit d'ailleurs un article dans le livre.
Oui, qui est excellent, passionnant.
C'est l'ancienne présidente du syndicat des travailleurs de la chimie au Brésil, mais c'est aussi l'ancien responsable du laboratoire public,
oui,
Farmanguinhos,
qui a copié les molécules.
Exactement. Et elle dit la chose suivante. Je crois indispensable l'existence d'un secteur public de production pharmaceutique. C'est le meilleur moyen de contrôler les prix du médicament, et pas uniquement pour le sida.
Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que le sida, on peut être porteur, mais mourir de maladies opportunistes. Et quand M. Mandela, dans sa campagne pour la lutte contre le sida et pour récolter un maximum de fonds pour traiter les malades, il dit il faudrait aussi qu'on traite des maladies comme la tuberculose, le paludisme, les maladies opportunistes qui vont avec. Donc il ne faut pas s'imaginer que quand on s'occupe du traitement du sida, on ne s'occupe que de cela, on s'occupe de tout le reste, et surtout des maladies infectieuses. Et les maladies infectieuses, chers auditeurs, ce sont elles qui tuent nos enfants, ce sont elles qui tuent le plus possible de gens en Afrique. On est bien d'accord, monsieur Lick?
Complètement, complètement. Les maladies infectieuses, c'est 17 millions de morts dans le monde l'année dernière.
Bien.
Et ce qui est important dans la déclaration de Mme Pinheiro, c'est de bien cibler sur l'importance, même si l'industrie pharmaceutique ne peut pas être uniquement publique, mais sur l'importance d'un secteur public dans le cadre de l'industrie pharmaceutique. Et il y a une deuxième personne, parce qu'il y a un exemple qui est intéressant aussi, qui ressemble beaucoup à l'exemple brésilien, qui est l'exemple thaïlandais, où on a, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, hein, Krisanna Krensitou, qui elle est toujours responsable du laboratoire public pharmaceutique thaïlandais, qui dit la chose suivante. Si vous vous contentez d'exporter des génériques, ce n'est pas du développement durable. La production locale est la seule solution à long terme. Et donc si on prend ces deux déclarations, moi je pense qu'il y a... Après on peut discuter pendant des heures sur les propositions alternatives et il y a beaucoup de choses à dire. Mais ces deux personnes, elles ciblent bien les deux choses qui sont importantes aujourd'hui dans l'accès aux médicaments, au-delà des problèmes de prix qu'on a longuement évoqués, qui est le rôle du politique, la place d'un secteur public de l'industrie pharmaceutique, et ce que j'appellerais moi le transfert de technologie. Je ne sais plus qui disait ça, mais il vaut mieux apprendre les gens à pêcher que de leur donner du poisson toute leur vie.
Alors, donc si on doit être concret, nous, auditeurs, journalistes, intervenants, syndicalistes comme vous, la société civile, on a un double travail à faire. Donc d'abord, on doit s'arranger pour faire pression via des ONG comme BPEM, ACT UP et tout le reste, pour que les industries pharmaceutiques baissent le prix de leurs médicaments, ne serait-ce que pour les gens précaires économiques déjà dans les pays d'Europe du Nord ou d'Amérique ou Japon. Et surtout, il faudrait faire pression pour que la société civile du Sud, parce que le transfert de technologie partant du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, il se fera, mais qu'il y ait une volonté politique d'avoir une véritable politique sanitaire. Parce que c'est pas tout d'avoir les médicaments, il y a la volonté politique sanitaire. Et ça peut se heurter soit à un manque de volonté politique ou à des tabous. Parce que qui dit sida, dit sexualité, qui dit sida, dit transmission par le sang. Et il y a un certain nombre de tabous, même ici, dans nos communautés, on est bien d'accord.
Complètement. Moi, je pense qu'il y a la société civile, ou le mouvement social, on l'appelle comme on veut, dans un pays comme le nôtre, il se doit de créer des passerelles. Alors, il se doit de créer des passerelles nord-sud,
Et sud-sud.
Sud-sud, et puis aussi, je voudrais dire nord-nord, parce que il serait temps, et c'est une des richesses du livre, hein, il serait temps que les syndicalistes de l'industrie pharmaceutique, mais de manière plus importante qu'un individu comme moi, ou des militants d'associations comme ACT UP ou d'autres associations, se mettent vraiment à discuter et à proposer un certain nombre de choses pour faire pression à la fois sur l'industrie pharmaceutique et dans ce qu'elle a de plus terrible dans
ses travers. Dans son côté de marchand de mort.
Exactement, dans ses travers les plus importants. Et puis aussi, qu'elle fasse pression sur le politique dans notre pays.
Parce qu'il n'est pas normal que, malgré la CMU, il y ait un ticket modérateur à payer pour les plus pauvres, il n'est pas normal que l'AME ait été supprimée.
Complètement.
Parce que on s'imagine faire des économies en empêchant les gens sans papier ou les gens qui n'ont pas de travail d'avoir accès aux soins. Mais s'il y a une épidémie qui se déclare, comment est-ce qu'on va la détecter? On va se retrouver tous avec des problèmes de santé publique, alors qu'il aurait fallu faire de la prévention, et c'était justement le cadre de la CMU et de l'AME, on est bien d'accord, M. Ziegelbier?
Oui, complètement.
Ce sont des fausses économies, en fait, ils mettent en danger la santé publique.
Le plan d'Oust-Blasi sur les économies pour la sécurité sociale n'est pas la réponse aux vrais problèmes. Il ne traite pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est d'évaluer l'utilité sociale d'un nouveau médicament. C'est comparer un nouveau médicament par rapport aux existants. Comment justifier que dans certains cas, je ne dis pas que c'est toujours le cas, il ne faut jamais généraliser, mais que dans certains cas, on paye un traitement 10 à 15 fois plus cher qu'un traitement ancien, tout en n'étant pas plus efficace. Donc il y a tout un travail à faire sur le coût des médicaments, sur le coût de la recherche, sur les coûts de production, sur la place de la sécurité sociale. Et ça, au bout d'un moment, la société civile, elle peut faire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il faut que les réflexions de la société civile nourrissent le politique. Parce que ces décisions-là, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays, elles seront au bout d'un moment prises par le politique. Et donc on a...
Ne serait-ce qu'au moment des élections ou des échéances électives.
Complètement. Et donc on a tout intérêt, société civile, sans œillères, sans tabou, sans... en arrêtant de se dire... J'étais à la conférence de presse de présentation du livre. Je pense que certains étaient étonnés de voir une militante de l'ACT UP et un militant de la CFDT Sanofi-Aventis l'un à côté de l'autre.
Mais vous avez les mêmes objectifs.
On a les mêmes objectifs.
Vous n'avez pas la même approche, mais les objectifs sont les mêmes. Il faut que la santé mondiale soit un bien public. Et la définition du bien public, c'est un bien gratuit à la disposition de tous. Nord comme Sud, on est bien d'accord.
Tout à fait. Mais ça veut dire que, déjà ici, il faut qu'il y ait des barrières qui tombent et qu'on se mette autour de la table pour discuter non seulement du constat, mais on ne va pas passer encore 10 ans. Si au prochain sommet contre le sida, et au suivant, et dans 10 sommets internationaux contre le sida, à chaque fois la presse fait un constat, d'accord? Enfin, moi j'en ai marre de lire des constats. Honnêtement, j'en ai marre. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on se mette autour de la table et qu'on discute propositions concrètes pour que le politique mette son nez dans la politique du médicament. Pour que le politique dise aujourd'hui, le politique au sens large, disent aujourd'hui, ce traitement-là, on en a besoin, on est prêt à le payer tant, mais ce traitement-là, non. Et puis, si on prend l'affaire du Vioxx,
oui. c'est le scandale.
C'est l'absence du politique. C'est l'absence du politique. Et donc ça ne peut pas se répéter.
Et en plus, il y a un effet pervers énorme, c'est que maintenant, les gens ont plus confiance dans les médicaments. Le Vioxx, c'est 80 à 140 000 cas de maladies cardiaques, rien qu'aux États-Unis. Et on n'a pas encore fait le bilan pour l'Europe.
Donc le Vioxx, c'est un anti-inflammatoire.
Hein. Voilà.
Pour en dire deux mots rapidement, d'un côté, l'entreprise qui fabriquait ce médicament savait depuis très longtemps qu'il y avait des problèmes. Donc ça pose des vrais débats de transparence.
De toute façon, marchand de mort, ça, je ne vois pas d'autre...
On ne peut pas se contenter de faire le constat. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des alternatives proposées sur la véracité en termes d'essais cliniques, qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur la réalisation du médicament. Donc, elle savait. Secondo, aujourd'hui, les dirigeants de chez Merck, puisque le cours de la bourse de Merck a quand même beaucoup plongé dans cette affaire, les dirigeants de chez Merck se sont votés des indemnités dorées en cas de gros problème. Dans le même temps, ils ont annoncé un plan de suppression d'emplois, et c'est là qu'on a des intérêts communs entre malades et syndicalistes et salariés de manière plus générale de l'industrie pharmaceutique. Un plan de suppression d'emplois, il y en avait déjà un de prévu qui était de 4400 salariés. L'affaire du Vioxx porte ce plan à 5100 suppressions d'emplois dans le monde. Et puis derrière, on peut se poser la question des sommes déboursées par vous et moi
pour rembourser le achat de ce médicament qui, entre parenthèses, ont tué des gens. Donc il y a déjà la sécurité sociale rembourse les médicaments, on n'est pas sûr qu'ils soient efficaces, bon, d'accord, mais en plus ils vous tuent et le laboratoire ne rembourserait pas les sommes, bravo.
Si je voulais faire juste une petite précision sur cette affaire du Vioxx, moi je pense que elle est problématique parce qu'elle montre l'absence du politique de manière générale, c'est-à-dire que pour moi le politique c'est pas que les partis politiques, c'est la société civile de manière générale, donc elle montre l'absence du politique quand même.
l'absence des agences sanitaires qui devaient vérifier, contrôler ces médicaments quand même.
Exactement. Et puis...
elles sont contrôlées par le ministre de la Santé, on dit bien d'accord.
Il paraît. Et puis un autre problème qui est la méfiance que vont avoir beaucoup de gens dans le médicament aujourd'hui. Et en étant salarié d'Industrie Pharma, je voudrais dire quand même un petit truc, c'est qu'il n'y a pas de médicament sans effet secondaire. Ça, ça n'existe pas et très honnêtement, ça n'existera jamais. Il y a toujours des effets secondaires.
D'accord.
Mais entre des effets secondaires mineurs et 80 000 à 140 000 décès dus à un médicament comme le Vioxx,
il y a la marge.
Il y a une différence.
Bon, alors donc, Monsieur Laurent Zegelbier, donnez-nous quelques espoirs. Bon, il n'y aura aucun médicament sans effet secondaire, d'accord. Il n'y aura pas une politique sanitaire centrée uniquement sur l'accès à un médicament, fussent-ils les trithérapies pour lutter contre, pour maintenir en vie les gens porteurs du virus du sida et éviter qu'ils ne soient tués par les maladies infectieuses qui sont opportunistes. Parce qu'il est bien évident que quand vous êtes porteur du sida, vous êtes fragilisé et vous ne mourrez pas du sida en tant que tel, mais de maladies opportunistes. Donc, au-delà du traitement pour le sida, c'est encourager une politique de recherche sur les maladies infectieuses comme la tuberculose, la bilharziose, le paludisme et tout le reste, on est bien d'accord. Donc il faut bien que les auditeurs aient ça en tête. La recherche sur le sida permet de développer la recherche sur les maladies infectieuses et l'Afrique meurt d'abord de maladies infectieuses.
Bah, c'est comme dirait l'autre, il y a des armes de destruction massive qui intéressent personne sur cette planète.
Tout à fait.
Hein, comme le paludisme ou le sida. Moi je dirais que on ne va pas demander à l'industrie privée de répondre à l'ensemble des problèmes de santé publique. Son job à elle, c'est de faire du pognon. En même temps, il y a une vraie nécessité, au nord comme au sud, d'un contrôle plus important sur l'industrie du médicament. Sans forcément qu'elle soit intégralement nationalisée. Moi, j'ai connu un groupe, en 92, j'étais dans un groupe qui s'appelait Rhône Poulenc à l'époque, aujourd'hui c'est Sanofi Amantis, dans un groupe qui était nationalisé à l'époque, tout en étant un groupe public.
Il avait une politique.
Financé par les fonds publics, il avait la même politique que celle aujourd'hui.
Bon.
Que celle que j'ai connue chez Aventis.
Bon, donc il n'y a pas beaucoup de changements pour vous. C'est bien.
Disons qu'il ne suffit pas qu'il y ait la nationalisation. Moi, je pense qu'à côté de l'industrie privée, qui pour bon nombre de thérapies répond aux problèmes de santé publique, à côté de cette industrie privée, il y a nécessité que dans un pays comme le nôtre se constitue un pôle public de recherche et de développement sur le médicament. Un pôle public qui à la fois travaille sur ce que ne bosse pas l'industrie pharma. Après, il faudra débattre des moyens de financement, etc. Mais là encore, ça nécessite de se mettre à fond autour d'une table pour travailler des propositions économiques concrètes. Et puis, un pôle public qui, à la fois, soit aussi tourné vers les collaborations avec le Sud, et notamment qui est en tête le fait que ce qui sortira de ce pôle public seront des produits non brevetés, où on pourrait inventer un brevet public, donc accessible à tous, et puis en même temps qui travaille sur les problèmes de transfert de technologie.
Et les problèmes d'installation des normes sanitaires partout, pour que la santé mondiale devienne un bien public.
Complètement.
Que nous soyons ici, en Afrique ou ailleurs, nous puissions nous faire soigner, et nous ne mourions pas de maladies qui pourraient être éradiquées de la planète depuis des décennies. Tout simplement parce qu'il y a des marchands de morts qui ont décidé que ça n'était pas suffisamment rentable. C'est-à-dire les industries pharmaceutiques et les pouvoirs publics qui laissent faire parce que, quelque part, ils n'ont peut-être pas intérêt à s'attaquer au lobby pharmaceutique qui a beaucoup, beaucoup d'argent. On est d'accord.
Qui a beaucoup d'argent. Et puis deux, c'est pour ça que le débat doit être sans tabou, très ouvert et en même temps, il sera assez long. C'est que l'industrie pharmaceutique, ça représente aussi, je suis bien passé pour en parler, un volume d'emploi énorme. Rien qu'un groupe comme le mien, on est 100 000 salariés. Donc il y a
le pourcentage à l'emploi.
Oui, mais cet élément-là, il doit être dans le débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dire à des salariés de l'industrie pharma, écoutez, aujourd'hui, on ne produit plus que des génériques beaucoup moins chers, et donc vous, on ne peut pas vous garder.
Ou alors on vous fait un chantage, vous travaillez plus et vous êtes moins payé.
Disons que le fait que, c'est un message que je voudrais faire passer, que ce n'est pas parce qu'on est salarié de l'industrie pharmaceutique qu'on partage ses orientations, mais qu'on ne sera pas forcément et qu'on en est souvent les premières victimes aussi. C'est, je suis dans un groupe alors avant l'OPA de mai dernier qui a quand même, le groupe Aventis, fermé le centre de recherche de Romainville, pas très loin d'ici, 1600 salariés d'un seul coup en quelques années, une expertise scientifique notamment sur les anti-infectieux énorme, qui fait même dire, y compris à la nouvelle direction du groupe où je suis aujourd'hui, qui est Sanofi Aventis, que c'était une belle connerie. C'était une belle connerie parce qu'on a perdu une vraie expertise.
Bon. Alors, Monsieur Ziegelmeyer, je rappelle les références de l'ouvrage. Alors, l'éditeur, c'est Charles Léopold Meyer. Le titre, La santé mondiale entre raquettes et biens publics. Donc, c'est publié avec l'aide de l'association Biens publics à l'échelle mondiale. Cette association a un site internet, bpem.org, sur lequel donc vous aurez toutes les expériences qui ont marché, comme celle du Brésil, le procès de Pretoria, et aussi l'exemple problématique qui va devenir être un combat de tout le monde, c'est l'Inde, et les copies des nouveaux brevets. Donc un ouvrage collectif pour lequel vous avez collaboré, y compris donc le docteur qui a fait l'expérience du Brésil, Madame Pinheiro, et surtout Germaine Velasquez, l'homme par qui l'expérience a pu se faire, parce qu'il a réussi à trouver la faille juridique dans l'OMS. Monsieur Ziegelmeyer, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Chers auditeurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir.